descending to outer space.
Une pause, un podcast et une révolution. www.libradio.org.
To find another race. I'm descending to outer space.
Très bonne soirée et je passe la parole à l'équipe de Moins en les remerciant encore pour leur présence.
Alors du coup, moi c'est Sabezane, je fais partie de l'équipe de Moins depuis 5-6 ans. On n'a pas de rubrique particulière, je m'occupe un peu de tout, ça dépend des périodes, que ce soit la coordination sur le dossier, leur dossier, des suivis d'articles, des choses comme ça. Et puis, sinon, je bosse dans la protection des eaux.
Moi, c'est Mathieu. Je suis un des membres fondateurs du journal avec Yvon et Mirko. Je suis principalement homme au foyer. Et puis, je travaille aussi 2 jours par semaine avec des jeunes adultes migrants. Et puis, au journal, comme dit Saint-Dezanne, on n'a pas de tâches spécifiques, on s'occupe un peu de tout. Juste 2-3 mots peut-être sur le journal, puisque c'est un peu dans ce cadre-là qu'on nous a proposé de participer à cette soirée. Et puis on remercie l'équipe pour ça. Ça me fait plaisir d'être ici. Moi, je ne m'attendais pas à avoir autant de monde. Je suis un petit peu intimidé, mais on n'est pas invité si souvent que ça, donc on n'a pas très souvent l'occasion de prendre la parole. Mais voilà, juste quelques mois. Donc le journal, on va fêter nos 10 ans cet été. Donc c'est déjà un petit moment, on ne se doutait pas forcément que ça allait durer quand on s'est lancé. On a un fonctionnement qui probablement nous rattache au mouvement libertaire, puisqu'il n'y a pas de... on n'a pas de rédacteur en chef, on n'a pas de directeur de la publication. Tout le monde travaille avec les mêmes... prérogative dans un esprit de collaboration tout à fait horizontal. On est au prix libre, on n'a pas de publicité, donc on vit seulement de nos lectrices et lecteurs. Et puis voilà, le journal est né vraiment d'une idée de parler d'écologie en termes politiques, contre une écologie plus individuelle, plus de surface, qui nous semble dominer les débats depuis bien quelques années. Voilà pour une brève présentation du journal. Alors si on nous a proposé de parler ce soir d'écologie et d'anarchisme, alors l'anarchisme, c'est pas notre spécialité, on connaît... assez peu, mais c'est justement plutôt la partie après de discussion avec vous qui approfondira ces questions-là. Mais si on veut parler un petit peu d'écologie, je crois d'abord que je n'ai pas besoin de faire de la liste des problèmes écologiques d'aujourd'hui. Je vais m'éviter ça, puis vous l'évitez aussi. Je crois qu'on est tous assez au clair. Ce qui est peut-être intéressant, c'est de remarquer qu'on a quand même depuis quelques années une forme de pseudo-reconnaissance du problème. Il y a peu aujourd'hui de projets, de produits qui ne soient pas estampillés verts ou durables ou écologiques. Depuis, ça fait 1999, le développement durable est cité dans la Constitution suisse. Donc voilà, on a l'impression de baigner aujourd'hui dans un accord que voilà, nous sommes des sociétés écologiques. Cependant, quand on creuse un tout petit peu, même selon les chiffres officiels, on s'aperçoit que l'impact écologique global d'un pays comme la Suisse ne diminue pas. Donc c'est assez particulier de constater que tout est vert, tout est écologiste, que ce soit l'État, que ce soit les entreprises, que ce soit... voilà, mais que fondamentalement, ça a l'air de rien changer, donc ça interroge. On peut se demander pourquoi. Alors, il y a tout plein de pistes qu'on pourrait développer. Pour nous, en tant que... objecteurs et objectrices de croissance, il y a peut-être certains éléments qu'on a envie de mettre en avant. Il y a la question de la délocalisation, dans le sens que aujourd'hui, c'est vrai, quand on observe en Suisse, ben là, je me promenais pour venant le long du Rhône, c'est vrai que l'eau est extrêmement claire, on voit on peut se baigner un peu moins actuellement, mais à certaines époques de l'année, on voit volontiers des gens qui se baignent, que ce soit à Zurich, c'est une expérience qui est assez forte de se baigner en plein milieu d'une ville de 500 000 habitants. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits au monde où on peut faire ça, ou même à Genève. Donc on peut avoir l'impression, parce que beaucoup de gens ont l'impression que la Suisse est effectivement un pays assez propre et écologique. Mais on oublie souvent que, selon même les rapports officiels de l'État, entre les deux tiers et les trois quarts de la pollution qu'on génère, des impacts écologiques sont générés à l'étranger. Ça, c'est les chiffres officiels de l'Office fédéral de la statistique. Ça dépend si on prend le CO2 ou l'entier des pollutions, puis après comment on pondère chacune. Mais disons que si en Suisse, on peut dire qu'il y a toujours beaucoup de problèmes écologiques, mais qui sont relativement stabilisés. Je sais pas, la pollution de l'air a quand même significativement diminué en ville depuis 20-30 ans. Mais parce que on vit aux dépens du reste de la planète, et puis même officiellement, on admet que les pollutions que l'on génère à l'étranger pour maintenir notre niveau de vie sont en augmentation. Donc c'est une des raisons pour laquelle le mouvement pour la décroissance et d'autres vont prôner la relocalisation économique, mais également politique. Un autre élément qu'on peut peut-être souligner, c'est la question de l'effet rebond. Je ne me rends pas compte... Qui c'est un concept qui est connu, enfin, qui c'est qui connaît l'effet rebond et ce que c'est. Alors, j'en parle peut-être brièvement. L'effet rebond, c'est l'idée que grâce aux technologies, on va améliorer l'efficacité de nos outils. On va passer de la voiture thermique à la voiture électrique, ou même à l'intérieur de la voiture thermique, on a des moteurs qui sont plus efficaces, on a des congélateurs qui sont A++++, on a des logements qui sont mieux isolés. Le problème, c'est que ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait, les améliorations technologiques, dans une société en tout cas de croissance, elles permettent de consommer plus, c'est-à-dire qu'un service va devenir moins cher puisqu'il est plus efficient, donc il faut moins d'énergie, moins de matière pour produire le même nombre de services ou bien de produits, et puis du coup on va se mettre à en consommer plus. C'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps. L'autre nom de l'effet rebond, c'est le paradoxe de Jevons, du nom d'un économiste anglais qui avait déjà observé au milieu du 19e siècle, au moment où James Watt a amélioré très fortement la machine à vapeur. Il s'est dit, ah mais c'est super, on aura besoin de moins de charbon, parce que l'Angleterre avait déjà des problèmes avec ses ressources en charbon. Et puis en fait, il a constaté que malgré l'amélioration de la technique des machines à vapeur, eh bien, la consommation de charbon augmentait. Et puis il s'est demandé pourquoi, et puis il a constaté qu'effectivement, à partir du moment où une machine devient soit plus petite, soit plus efficace et moins chère, ben, du coup on va se mettre à l'utiliser dans des domaines où on ne l'utilisait pas avant. Et du coup, globalement, on a une augmentation de l'utilisation. Si on regarde aujourd'hui, il y a des exemples extrêmement clairs, par exemple au niveau du logement. Donc le mainstream écologique va dire qu'il faut isoler les bâtiments. Simplement, on oublie que la surface habitée par personne a doublé en Suisse depuis 50 ans. Donc on comprend très vite que si on augmente, je donne des chiffres un peu, j'ai pas les chiffres précis, mais pour comprendre l'idée, si on augmente notre efficacité de 30%, il faut 30% moins d'énergie pour garder un logement à la même température, mais qu'on double la surface chauffée par personne, eh ben on augmente la consommation d'énergie de 20%. C'est la même chose pour les bagnoles, sans compter les bagnoles électriques. Aujourd'hui, les moteurs sont beaucoup plus efficaces qu'il y a 20 ou 30 ans. Simplement, on a des bagnoles plus grosses, plus lourdes, on les utilise plus, etc. Donc, ça, c'est des effets rebonds directs. Il y a aussi des effets rebonds indirects, c'est-à-dire qu'il y avait une superbe pub il y a quelques années pour Mobility, donc pour les voitures partagées, qui exprimait parfaitement l'effet rebond indirect en signalant économisez sur la voiture et payez-vous des vacances en avion sans aucune remise en question, mais c'est vraiment typique l'argent qu'on peut économiser parce qu'un service est plus efficace, ben on peut le mettre ailleurs. Donc voilà, dans une société matérialiste et puis croissanciste, les améliorations technologiques ne servent à rien, elles peuvent même être contre-productives. Donc ce qui montre la nécessité de la sortie des sociétés de croissance, l'importance de la sobriété et puis aussi une réflexion sur nos besoins. Un autre élément intéressant, c'est celui de contre-productivité qui a été développé principalement par Ivan Illich. C'est l'idée qu'à partir du moment où une institution ou un outil devient trop grand, elle va se retourner contre le projet qu'on avait à la base. Les exemples qui prend beaucoup l'exemple soit de l'éducation, hein, c'est une société sans école, ou à partir d'un certain moment, ça part évidemment d'un bon sentiment d'éduquer tout le monde, mais au bout d'un moment, si on n'a pas passé par les bancs de l'école, on n'a plus accès à une vie, disons, normale, parce qu'on n'est pas diplômé, parce qu'on n'a pas de titre, etc. Donc au bout d'un moment, collectivement, l'institution empêche une véritable éducation. Aussi au niveau des transports, la voiture ou même des trains à grande vitesse ou des avions, on a l'impression au début que ça va nous aider, mais au bout d'un moment, ça nous empêche d'utiliser nos propres pieds pour se déplacer d'un endroit à l'autre de Genève. Il faut contourner l'aéroport ou bien il faut attendre au passage piéton. Donc au bout d'un moment, une approche exclusivement technique et puis qui débouche sur des outils ou des institutions de grande taille nous empêche de vivre une vie autonome. Donc trois exemples de la délocalisation, de l'effet rebond, de la contre-productivité pour signaler que pour nous en tout cas, mais je crois qu'il y a d'autres mouvements d'écologie radicale qui le partagent, c'est que les problèmes écologiques actuelles ne sont pas des problèmes techniques, mais ce sont des problèmes politiques au sens large, des problèmes de choix de société, et en particulier dans nos sociétés modernes, matérialistes, individualistes, productivistes, que ce soit dans ses variantes capitalistes ou socialistes ou communistes, ça ne fait pas de grande différence. Les problèmes écologiques sont guère différents en Chine, dans l'ex-Union soviétique, que chez nous. Sans compter les problèmes de hiérarchie et de domination que cela crée. Donc, le fait, à notre avis, comme il se passe actuellement avec une écologie mainstream qui refuse la dimension politique et sociétale des problèmes écologiques, le fait de poser les problèmes écologiques uniquement en termes techniques permet de maintenir en fait le système en place et de servir en fait les puissants et leurs privilèges. Cela d'autant plus, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que l'idée c'est de parler d'écologie, mais que évidemment les problèmes de la modernité ne sont pas que écologique, que ce soit tous les problèmes sociaux, les taux de dépression, de suicide, de burn-out qu'on a dans les sociétés modernes, qui ne sont pas des taux naturels, mais qui sont inhérents à ce genre de société, la crise économique, une crise aussi probablement éthique, dans le sens que, on peut citer tout plein d'exemples, mais pourquoi est-ce qu'on sait tous que les téléphones portables créent tout plein de problèmes, que ce soit écologiques ou sociaux dans d'autres pays, mais on continue à les utiliser largement, y compris dans les milieux militants. Les problèmes inégalitaires, d'inégalité phénoménale et croissante, on sait qu'on est à peu près 20% de la population dans les pays riches à consommer en gros 86% des ressources planétaires, un petit milliard de gens qui ont faim alors que 2 milliards sont en surpoids. Donc, donc on se rend, pour nous en tout cas, on se rend bien compte que l'écologie est liée à un modèle sociétal, et puis que l'écologie doit être une écologie politique, une écologie radicale, si on veut vraiment s'attaquer à ces problèmes à la racine. Je vais m'arrêter là, et puis après il y aura tout plein de discussions possibles, et puis je te laisse continuer.
Oui, donc moi je vais me pencher plus sur les apports d'un courant à l'autre, donc les différentes similitudes entre l'anarchisme et puis l'écologie politique en l'occurrence. Du coup la thématique c'est anarchisme et écologie, mais nous a semblé assez naturel en fait, comme l'a dit plusieurs fois Mathieu, que l'écologie au sens développement durable une écologie réformiste, c'est pas le type d'écologie qui nous semble opportun au vu de la situation. Et du coup ce qui est intéressant à regarder, c'est quelles sont les similitudes entre qu'est-ce qu'a pu apporter l'anarchisme à l'écologie politique. Et puis en fait on voit qu'il y a énormément de choses qu'on partage dans ces deux courants politiques. Peut-être revenir juste sur le départ de ces deux mouvements. Donc c'est quand même au niveau temporel des choses qui ne sont pas du tout arrivées en même temps. Donc l'anarchisme c'était vraiment quelque chose qui est apparu dans le courant du 19e siècle, et puis en fait quand on regarde l'histoire de cette période, on voit que c'est vraiment le début de l'industrialisation, mais aussi le début des états modernes. Et l'écologie politique en fait c'est un mouvement qui est beaucoup plus récent, qui est là depuis à peu près 50 ans, il faut quelque chose comme ça. Et en fait donc si on prend l'anarchie en premier, donc c'est vraiment un mouvement contestataire par rapport à l'accaparement des ressources, la centralisation et ce genre de concepts en fait qui sont apparus vraiment avec l'industrialisation et l'utilisation des énergies fossiles, qui ont commencé à centraliser aussi bien en fait les moyens de production dans les mains de quelques-uns que le pouvoir économique et politique qui se retrouvait de plus en plus concentré. Et puis en parallèle à tout ça, on a la création des états modernes, et les états modernes en fait sont vus par les anarchistes comme étant en fait une espèce de soupape pour répondre aux besoins du capital. Donc quand on prend par exemple Proudhon, qui est considéré comme un des pères de l'anarchisme en tout cas francophone, donc il remettait en question en fait toutes ces méthodes de domination, donc que ça soit le capital, que ça soit l'État, que ça soit l'Église, parce que c'était toutes des choses en fait qui allaient dans le sens de la domination. Ça pouvait être aussi le patriarcat, c'est toutes ces choses-là contre lesquelles s'est battu l'anarchisme dès ses débuts. Et du coup, il y avait vraiment cette volonté de s'en prendre à la structure même du système de domination. Et en fait, on retrouve cette volonté-là aujourd'hui dans l'écologie politique aussi. D'aller vraiment à la racine des problèmes et pas simplement à régler les maux qui sont liés à la structure ou du système dans lequel on vit. Donc on est loin, voilà. Il y a aussi un courant écologiste qui va dans ce sens, hein, quand on regarde des partis politiques comme les Verts libéraux, donc c'est typiquement ce genre de pensée de dire, ben voilà, on va pouvoir solutionner les choses autrement, on va pouvoir apporter une solution technologique ou une réforme sociétale pour changer ça, mais on ne va jamais s'en prendre réellement à la racine du problème. Et en fait, quand on prend l'histoire de l'anarchie, on voit aussi les débats qu'il y a eu. Donc, par exemple, au premier congrès anti-autoritaire à Saint-Igny, on a parlé de Saint-Igny juste avant, qui va revenir dans l'actualité cette année ou l'année prochaine. Si si ce premier congrès il a pu avoir lieu, bah, c'est parce qu'il y a eu scission au sein même de ce courant socialiste qui est l'anarchisme. Donc il y avait un congrès à La Haye, hein, avec Marx et Bakounine qui représentaient le courant anarchiste. Et tout ce pan en fait anarchiste du mouvement socialiste global s'est vu complètement mettre de côté parce que il y a commencé à avoir en fait tout un débat sur comment il fallait s'en prendre pour arriver à la destruction du capital, du capitalisme. Donc d'un côté on avait un courant marxiste très puissant qui voulait en fait utiliser la structure étatique pour arriver à ses fins, et de l'autre côté les courants qui vont devenir du coup anti-autoritaires menés à cette époque-là par Bakounine, vous me corrigez hein, si je dis des bêtises mais qui sont absolument pas prêts à rentrer dans un système, à même envisager la possibilité de rentrer dans un système où on peut utiliser le système étatique ou un autre système de pouvoir pour réformer le système, en fait. Donc, c'est des choses qui se sont passées il y a plus de 100 ans, et puis en fait, on est exactement dans le même débat aujourd'hui de savoir est-ce que on utilise les systèmes politiques qui sont en place pour mener la révolution, ou bien est-ce que on doit complètement se sortir de ce système-là. Puis en fait, dans l'écologie politique, il y a vraiment, on essaie d'agir à différentes échelles avec différents moyens. Et en fait, peut-être déjà, ce qui différencie de ce point de vue-là l'anarchisme et l'écologie politique, c'est peut-être que de base, l'anarchie va, et on le voit bien quand on regarde, si on regarde le débat public, en fait, le courant anarchiste est très peu représenté dans le débat public. Mais parce qu'il n'y a même pas cette volonté d'aller dans ce système-là, de participer en fait à la vie démocratique institutionnelle. Donc, alors que le courant écologiste politique, il est quand même représenté plus ou moins bien par des personnes, par des élus, mais aussi des militants qui prennent la parole dans les médias, qui se présentent comme des militants radicaux, des militants écologie politique, décroissant, voilà, il peut y avoir tout un panier de termes, mais c'est un courant qui va être représenté dans le débat public, ce qui ne sera pas le cas, en tout cas, de mon impression, du courant anarchiste. Et ça s'explique justement probablement par cette volonté dès le départ, en fait, d'absolument pas faire partie de n'importe quel système de domination. Après, c'est que nous, dès le début, donc dans l'écologie politique, on s'éloigne beaucoup des courants américains, par exemple environnementalistes ou de protection de la nature. Donc, c'est des choses qui sont bien entendu prises en compte dans la réflexion globale, hein, mais si on prend par exemple des John Muir ou des Toro qui ont théorisé pas mal de choses avec la protection des parcs nationaux aux États-Unis ou des choses comme ça, et ben on est dans une pensée qui peut très vite arriver à une pensée très technicienne où on dit la protection de l'environnement et l'écologie, qu'est-ce que c'est simplement de dessiner des traits sur un territoire et de dire cette zone-là, on va la protéger, on ne sait pas trop de qui on va la protéger, ça dépend aussi des endroits. On en a pas mal discuté dans le dernier dossier, moi aussi, parce que suivant les endroits sur le globe, des fois on protège même certains lieux des personnes historiquement qui ont vécu sur ce site au prétexte qu'il faut sauver la nature ou l'environnement. Donc c'est ce qu'on voit dans des pays en Afrique, c'est ce qu'on peut voir au Canada avec des peuples autochtones, donc ça c'est aussi un courant de pensée duquel l'écologie politique est très éloignée, parce qu'en allant même à la racine des problèmes, on va de facto, disons, régler ces problèmes là de protection de la nature en allant plus loin dans la réflexion. Et de l'autre côté, dans le courant anarchiste, par exemple, les questions de protection de la nature et tout ne viennent pas forcément. Mais par contre, il y a déjà 100 ans, dans certains courants anarchistes, parce que c'est aussi un milieu qui est très diversifié à l'intérieur même du courant anarchiste, on a déjà des évocations du véganisme, on a des premiers courants vraiment qui vont essayer de se mettre dans ces courants véganistes. Donc on a des choses en fait très intéressantes qui se passent très très tôt dans l'histoire anarchiste et qui sont à peine traitées par l'écologie politique. Du coup, l'écologie politique, en fait, elle apparaît vraiment à partir des années 60-70, quand on se rend compte qu'il y a vraiment un problème au niveau, en fait, on est en train de tomber un peu de notre chaise, de notre piédestal, ouais. On se rend compte en fait que tout ce qu'on nous a raconté depuis la révolution industrielle est un énorme mensonge ou un leurre, et puis en fait que tout n'est pas aussi rose que ce qu'on nous a dit jusque là. Et c'est dans ces années-là en fait que voilà, il y a les premières crises énergétiques qui apparaissent et tout. On a le rapport des Rogan là du MIT qui sort sur les limites de la croissance, et en fait ça va faire un électrochoc. Il y a le livre de Rachel Carson sur les pesticides aux États-Unis qui sera un énorme électrochoc aussi. Donc en fait on se rend compte que le système aussi bien énergétique qu'on nous a proposé, mais plus largement de modèle agricole, de modèle social, avec des États qui sont là aussi pour nous proposer un modèle social particulier, et ben que tout ça en fait ça peut être mis en question, et que le modèle économique surtout qu'on nous propose il est absolument pas soutenable. Donc en fait on voit que si on continue comme ça, bah on va droit dans le mur. Et c'est là que du coup l'écologie politique commence à prendre un peu de nombre, mais c'est au début, bah, c'est vraiment. Il y a aussi certaines luttes emblématiques, comme la lutte contre le nucléaire et des choses comme ça, qui ont fait que le mouvement, ce courant-là, a pris aussi pas mal de poids. Mais la problématique plus globale, c'est vraiment de se dire que le modèle économique dans lequel on vit, bah, il ne va pas aller très longtemps comme ça, en fait. Ce que peut-être l'anarchie avait déjà dit tout au début, en fait, dès l'arrivée de l'industrialisation. Et du coup, il a quand même fallu quelques années pour réellement que l'écologie politique vienne sur l'avant de la scène. Ça fait vraiment peut-être 20 ans hein, que vraiment le terme décroissant même est reconnu, et même j'ai l'impression depuis 5-6 ans qu'il commence à être utilisé dans le mainstream entre guillemets, ou dans même la parole publique du quotidien. Et du coup en fait ce qui est être important ici à noter, bah c'est vraiment l'apport de l'anarchisme à cette nouvelle gauche entre guillemets. Donc aujourd'hui les fondements de l'écologie politique, elles sont très très proches des critiques qui ont été faites par les premières théorisations de l'anarchie. Et s'il faut retenir, je pense, une chose, c'est vraiment et je pense que si on a autant de rapprochements dans ces deux mouvements, c'est vraiment probablement le fait d'aller aux racines des problèmes et de s'en prendre à la structure économique qui nous domine. Et en fait, dans l'un comme l'autre, avec des moyens peut-être différents, on essaie d'arriver à bout et de proposer un outil système aussi. C'est peut-être aussi quelque chose qui rapproche les deux mouvements, c'est que au-delà de la critique même du système et de sa structure, c'est essayer de trouver un modèle alternatif. Les différents courants anarchistes se sont vraiment penchés sur la question, se sont auto-organisés. Ces questions d'auto-organisation, elles reviennent très très souvent, aussi bien du côté anarchiste que de l'écologie politique. On a le municipalisme libertaire de Bookchin, l'organisation commune, ce genre de choses. Et puis du côté de l'écologie politique, si on prend des ouvrages comme ceux de PMO sur l'organisation en communauté ou des choses comme ça, on voit qu'on a vraiment beaucoup de similitudes entre les deux. Donc au niveau des rapprochements, c'est tout ça en fait qui font que ces deux courants, deux façons de penser, deux courants philosophiques et politiques qui sont très proches. Et bien il y a quand même quelques différences, peut-être sur l'aspect internationaliste de l'anarchie, qui est arrivé aussi dès le début, parce qu'en fait, pour ses fondateurs, l'aspect international était essentiel pour mener à bien la lutte. Et en écologie politique, c'est pas forcément aussi évident que ça, que la lutte, elle doit forcément être par quelque chose qui soit strictement international. Bien sûr qu'il y a une volonté que ça se passe au niveau interne, mais je ne pense pas qu'on verra un congrès mondial de la décroissance. C'est pas peut-être le même système de pensée pour arriver à ce genre de choses. Il y a une réelle volonté d'agir au niveau local déjà, en considérant que c'est un échelon politique qui est atteignable et qui permet de s'organiser en communauté assez facilement. Donc là, c'est ce genre de choses qui peut différencier ces deux courants. Il y a peut-être aussi sur les outils de production, je ne suis pas certain, mais il faut voir dans l'anarchisme, j'ai l'impression qu'il y avait cette volonté de posséder l'outil de production sans forcément critiquer l'outil technique en lui-même, en fait. Ce qui est beaucoup le cas dans l'écologie politique. Il y a une réelle volonté de remettre en question l'outil technique. C'est ce que Mathieu a expliqué avec Ivan Illich, par exemple, où on a une réelle réflexion sur qu'est-ce qu'est l'outil technique. Et puis voilà, donc je te redonne peut-être la parole pour ouvrir la discussion. Moi, je pense que c'est intéressant de voir qu'est-ce qui peut peut-être rapprocher ces deux courants. Voilà, on a énormément de similitudes, quelques différences aussi. Pourtant, c'est vrai que moi j'ai découvert aussi un peu plus l'anarchisme en sachant que j'allais venir là. Et puis en fait, en lisant pas mal, en fait, je me rends compte qu'on n'est pas si éloigné que ça. C'était assez marrant de voir quand même. Devoir être invité par vous pour se plonger un peu plus dans ce genre de thématique.
Eh bien, merci beaucoup. Au passage, vous citez beaucoup Ivan Illich. Pour certains anarchistes, Ivan Illich est un anarchiste, alors chrétien, parce qu'évidemment, il avait une pensée chrétienne, mais beaucoup le considèrent comme faisant partie du courant, d'un des courants de l'anarchisme. On ouvre la discussion. Est-ce qu'il y a une personne qui veut se lancer par rapport à ce qui a été abordé ?